Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Mensagem de Nível, neste domingo, dia 22 de outubro, que vai em mente. Vamos lembrar Rosa Macieira de Moulin, que faz precisamente 3 meses que faleceu, foi no dia 22 de julho. A mère adjointe de Antony, fundadora do Conselho António Paim e vice-presidente da Associação dos Eleitos Ativa, e ela esteve na origem da germinação entre Antony e Arcos de Valdevez. Vamos ter Hermann Sanchoiva, conselheiro municipal de Paris e presidente ativa, e contamos igualmente ter em direto de Estrasburgo João Esteves, presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. E depois vamos à atualidade francesa, eleições para o Senado que balança o Orçamento Geral do Estado para 2024. As receitas foram aprovadas sem debate na Assembleia Nacional, isto porque o Governo utilizou mais uma vez o artigo 49.3 da Constituição. E onde é que vai a NUPES, como costuma dizer, a coligação LFI-PS-PC e Europa Ecologie Les Verts? Temos a debater com o senador do Val-de-Marne, Pascal Savoldoli. E falaremos igualmente do jantar de gala de beneficência da Santa Casa de Misericórdia de Paris. Será no dia 18 de novembro, na Sala Vasta da Gama, nas instalações da Rádio Off. Falaremos igualmente do 35º aniversário da Associação Crianças de Hoje e da Manhã, que organiza uma iniciativa no próximo sábado, dia 28 de outubro, em Paris 11. E finalmente vamos até aos cais do Sena. Bouquinista resistem face à decisão da Prefeitura de Polícia de retirar les boîtes vertes, como nós chamamos isto, por causa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com em direto o Presidente da Associação Cultural de Bouquinista, Jérôme Calais. Para já vamos até Paris. Hermann Sanchoiva, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Hermann Sanches, tivemos a ocasião, quando tivemos a notícia precisamente da morte de Rosa Macieira de Moulin, de evocar a pessoa, igualmente tudo o que ela fazia, isto tanto a nível local, porque ela era mère adjointe com a encarregada dos séniores, igualmente da Europa. Mas era alguém que tinha, podemos nós dizer, um pé em cada país, em França e em Portugal.
Claramente, e bem-haja por relembrar não só a memória, mas obviamente também o trabalho que foi o dela, porque a Rosa, como muitos dos eleitos franceses de origem portuguesa, tinha pilares na vida, a família e uma pequena... Um pensamento para a Joana, para o Nicolas e para o Thierry, os três filhos da Rosa. Portanto, tinha a família com pilar, tinha essa ligação entre França e Portugal e todo o equilíbrio que nós, durante uma vida, procuramos ter. Em Portugal somos franceses, em França somos portugueses. E a melhor maneira, entre aspas, de eu trabalhar, passando para os filhos, passando para os amigos, é também trabalhar sobre projetos concretos. É assim que eu sempre via a grande vontade da Rosa nessa ligação com Arcos de Valdevez e, obviamente, e o presidente João Manuel Esteves, como o maire João-Yves Sinon, compreenderam qual era o interesse, mas foram os dois levados, entre aspas, pela euforia, pela vontade e o punho que era o da Rosa. Portanto, esse foi claramente um pilar, a ligação França-Portugal. E o outro tem muito a ver com algo que eu acho importante. A Rosa, como muitos de nós, veio mais do movimento associativo, veio mais da sociedade civil. Não somos muitos de nós ligados a um partido especificamente. Foi mais essa noção do qual era a nossa experiência, nossas capacidades e como é que o podíamos defender junto de uma equipa municipal para o bem de todos. A noção de serviço público é uma coisa que a Rosa tinha muito, e eu lembro-me que a conheci quando e ativa ainda não existia nessa altura como associação, mas quando organizei essa primeira viagem de 32 eleitos, a primeira viagem de resto que alguma vez se realizou com eleitos franceses autárquicos a Portugal, Lisboa e Porto, e foi aí que eu conheci a Rosa e que conheci mais uma boa dezena de eleitos nessa altura. E bem, a Rosa automaticamente e de forma, eu diria, um tanto natural disse, mas nós temos que ter essa atitude de forma muito mais regular. E a questão das eliminações, a questão das cooperações, como é que, de forma muito concreta, tu falaste dos séniores, cada um de nós está ligado a uma, duas ou três pastas, e bem, automaticamente a ideia foi de ver como é que as nossas práticas, o que as nossas cidades pediam, os nossos municípios faziam, podia ser também proveito para o outro. Isso é claramente uma das maneiras de melhor definir a Rosa, muito humana, mas também com muito caráter e com objetivos para cumprir. O Conselho Antoniano de Europeia,
precisamente sobre isso, acho que vale a pena falar, porque também foi um dos fundadores desse Conselho Antoniano de Europeia.
Bom, mas eu por outras razões, como vereador em Paris, o Conselho Parisien des Européens, portanto uma assembleia, resumindo, mas é uma assembleia que reúne todas as nacionalidades da União Europeia que estão a viver nas nossas cidades. Bom, Paris conseguiu arranjar os 27 membros para todos os países estarem representados, guardarmos os nossos amigos ingleses, o que a Rosa também procurou fazer, e portanto essa ideia do Conselho Parisien des Européens, quando trocámos com a Rosa, que tinha também a pasta da Europa, ela disse, mas porquê que eu não hei de fazer também em Antony? E Antony fez com 17 nacionalidades, e fez com um princípio que é exatamente o que a definia, era como é que nós, cidade de Antony, podemos usufruir da experiência dos irlandeses, dos italianos, dos romenos, dos portugueses que estão a viver na nossa cidade, e assim melhor responder. Há um exemplo muito concreto, a questão das eliminações já foi falada, mas, por exemplo, ambos tivemos essa preocupação de convencer os nossos serviços para darem mais informações mais adequadas aos cidadãos de origem europeia. A inscrição sobre as listas eleitorais é agora mais adquirida, mas quem sabe que em termos administrativos também há algumas especificidades, e também compreendemos assim que algumas coisas podiam ser melhoradas. Portanto, o Conselho Antonin des Européens é mais um exemplo de como é que a experiência entre várias cidades pode ser boa para todos. Mas se não houvesse a Rosa, imagino que não teria sido assim tão natural, porque lá está, ela tem duas nacionalidades, e na vida dela até cruzou com outras nacionalidades ainda, a Grécia, por exemplo. Portanto, é interessante, é engraçado ver como é que justamente a nossa dupla cultura ajuda a que certos projetos aos quais ninguém pensou, ela não fez apenas o Conselho, fez também, por exemplo, a Festa da Europa em Antony, por ter participado várias vezes. Vejo bem qual é o valor que isso tem, inclusive para os nossos amigos franceses, que têm uma animação e que descobrem ou redescobrem quantas nacionalidades estão a viver com eles.
Mas, nesse sentido, vale a pena relembrar, por exemplo, um dos princípios da Associação Ativa, Luz ao Direitos, precisamente é esse intercâmbio, troca de experiências, mas não só, mas também, porque aí é bastante importante o contacto pessoal entre, entre eleitos locais dos dois países, e ela aí teve um papel importante.
Isso é absolutamente fundamental. Só uma pequena dica, nós justamente, e isso é importante porque a Ativa é constituída exclusivamente por eleitos, e nós não somos os eleitos, somos eleitos franceses, de origem portuguesa, alguns também têm nacionalidade portuguesa, mas eu insisto sobre essa parte porque foi sempre uma das bases da nossa ação. Como é que eleitos franceses, dentro de autarquias e dentro de um sistema, entre aspas, franceses, podíamos desenvolver ligações com os nossos amigos eleitos em Portugal. E essa noção, entre aspas, de cada um, por seremos ambos vereadores ou presidentes de câmaras, poderemos de forma muito administrativa, muito técnica, avaliar a realidade dos projetos, foi o que levou a Ativa a desenvolver-se e atualmente a gerir ou a trabalhar ou a seguir a mais de 270 eliminações que existem entre França e Portugal. A Rosa aí e Arcos de Valdevez foi um excelente exemplo. Obviamente ela tinha essas origens também em Arcos de Valdevez, mas o melhor e o maior proveito é dela ter também trabalhado sobre quais são as coisas certas que fazem com que essas germinações ou essas cooperações possam realmente servir para alguma coisa. Portanto, não é apenas fazer a festa, não é apenas uma ideia, um tratado assim por alto, é também depois procurar como é que, de forma muito concreta, a troca de senhos, a questão sobre os jovens, a questão do ensino das línguas, os eventos. Estou agora a pensar noutros exemplos. A cidade de Sarlat, capital do foie gras, está à procura de um município em Portugal, mas porquê? Porque também quer fazer a ligação em termos gastronómicos. E bem, justamente essas diferentes temáticas são coisas que nos preocupam e foram, por exemplo, na lista das compras, entre aspas, que a Rosa também apresentou junto dos dois municípios, também estava a ser concreto para os habitantes também compreenderem porque é que nós podemos cooperar e na verdade, Artur, ter trocas de boas práticas, porque é assim, o que eu sei posso partilhar.
Hermano Sanches, peço desculpa, já temos em linha o Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdez, João Esteves, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, eu que agradeço a vossa presença, já agora um cumprimento também ao hermano. Vamos estar dentro de dias juntos, julgo eu que vamos estar dentro de dias juntos.
Sim, ouvi dizer que vai ser no dia 14 de novembro, salvo o erro, no Porto.
Exatamente.
Ora, Sr. Presidente, precisamente, foi Rosa Macieira de Moulin que um dia bateu à sua porta e dizer, bom, temos que fazer uma germinação entre Antony e Arcos de Valdevez, de maneira que, bom, ficou surpreendido ou finalmente, bom, mais trabalho para mim.
Não, fiquei surpreendido, mas ao mesmo tempo esta é a forma como também os arcoenses, e a Rosa inspirava bem esse sentido de querer mostrar que a terra tinha que a sua terra de origem tinha coisas bonitas para mostrar, mas acima de tudo que a sua terra também se podia relacionar com outras terras. E neste caso em concreto era com França, do sítio onde ela era, e onde eu acho que ela será sempre, quer seja dos Arcos Valdevez, quer seja de Antony. A Rosa era uma força da natureza que permitia com que se tornasse fácil aquilo que às vezes podia ser complicado, que era juntar dois municípios e se entenderem. E a Rosa foi, digamos assim, o caminho, o melhor caminho para fazermos esse futuro que estamos a fazer e que vamos traçar, e que ainda ontem eu estive também na zona de Paris mesmo, e com outro município, mas também esse é o objetivo. É como é que nós, europeus, como é que nós, povos de Portugal, povos de França, como é que nós, as comunidades, a nossa diáspora, podemos nos ligar todos e fazer com que as nossas terras consigam ser melhores para as pessoas que lá habitam e para as pessoas que as visitam.
Sr. Presidente, eu posso prolongar aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, na medida em que, salvo erro, está em Estrasburgo, no Congresso dos Municípios das Regiões da Europa, é verdade?
É isso mesmo, eu vim participar.
E qual é o objetivo, precisamente, deste Congresso?
Bom, este Congresso é uma iniciativa que decorre ao longo de todo o ano, está no âmbito do Conselho da Europa e trabalha sobre várias temáticas. Desta vez vamos nos preocupar muito exatamente pelos temas que dizem respeito à inclusão dos povos e também mostrar a nossa preocupação com aquilo que se passa no mundo e nomeadamente com estes problemas, estas questões, umas bem perto de nós, como é o caso da Ucrânia, como são os casos de muitos municípios e muitas pessoas que sofrem também neste momento, ou este caso também entre Israel e Palestina, quer seja outros, os povos sem dúvida alguma têm que se unir. E os municípios e as regiões da Europa querem exatamente dar esse sinal de que estão com os povos. É preciso olhar para o povo, é preciso tratar, é preciso acarinhar o nosso povo, porque ele é que nos construiu, ele é que nos trouxe até aqui, e nós temos que o passar, temos que dar esse legado. E sem dúvida alguma que estas preocupações com a coesão social, a coesão entre territórios, a coesão entre pessoas, é assim, o caminho para que possamos ter uma sociedade mais justa e uma sociedade mais evoluída, mais sustentável, que é aquela que procuramos todos.
Aliás, esse propósito, bom, ainda tenho que esperar por ter confirmações disso tudo, mas Hermano Sanches, próximo ano, vai fazer 50 anos que ocorreu a Revolução dos Escravos, o 25 de Abril de 1974, não quer desvender nada, porque não tem nada a desvendar por enquanto, mas são 7 números de iniciativas. Aí falamos dos povos, como disse a Presidente da Câmara de Arcos de Valvez, precisamente um 7 número de municipalidades francesas vão se mobilizar para festejar o 50º do 25 de Abril, e provavelmente já teremos alguma coisa no mês de novembro, quando ocorrer o Salon des Maires aqui em Paris, ou não?
Exatamente. Portugal criou uma comissão para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Essa comissão já foi pedida há um pouquinho mais de um ano quais seriam as iniciativas que ela podia desenvolver, mas a pensar no público francês. Uma coisa é o público, por exemplo, das associações, e o material que, através, por exemplo, do Instituto de Camões, podia ser divulgado em português, mas nós, municípios franceses, se queremos falar de uma revolução que não foi apenas uma revolução portuguesa, teve consequências ao nível europeu e ao nível mundial. A descolonização é um dos exemplos, mas também o equilíbrio norte-sul, ou simplesmente as ligações numa guerra fria que já existia. Portanto, se nós queremos poder propor, falar, debater, imaginar quais são as lutas de hoje, pensando nas lutas contra a ditadura há 50 anos, temos que ter material em francês. Bom, e é esse material que está a ser produzido, portanto uma exposição digital que vai ser enviada depois ou disponibilizada para os municípios, para eles poderem imprimir e utilizar nas escolas, utilizar nos equipamentos que são os nossos aqui em França. Bom, estamos contentes em saber que vem, já está um bocado demorado, porque entretanto nós temos que marcar os passos para poder acolher essa exposição. Eu sei que a Embaixada de Portugal também está a preparar uma exposição aí também em língua francesa, portanto vai haver esse material disponível. Agora, tudo o resto já está a ser organizado. A Ativa já enviou aos seus contactos, por exemplo, a lista das pessoas que podem participar em colóquios para falar da história e do 25 de Abril. A mesma coisa, há um trabalho que foi feito por nós com os produtores do filme da Maria Medeiros, Capitães de Abril, que vai ser disponibilizado para as câmaras a um preço e em condições muito mais favoráveis. Para quê? Para justamente nós, nas nossas câmaras e nos nossos equipamentos municipais, podemos fazer a projeção do filme com base num debate, com base em testemunha. E falávamos da Rosa, e eu sei que o João Manuel Esteves, como nós aqui em França, temos essa preocupação também de pensar nos portugueses que emigraram, nós aqui que os recebemos, em Portugal, de onde saíram, que é para também relembrar essas histórias, e isso é importante. Portanto, para nós, cidades francesas, falar para um público mais largo com os devidos, as devidas ferramentas, exposições, colóquios, filmes, debates, é uma coisa que é importante. Agora também, uma das ideias, Paris vai fazer com Mário Soares, mas Mário Soares é um exemplo muito, muito diferente por definição, mas também vamos prestar homenagem, dar a medalha da cidade a pessoas que estão aqui a viver há 20, 30, 40, 50 anos ou mais, e que participaram dessa riqueza. Mas porquê que estiveram, ou porquê que vieram para a França? Bem, porque também procuravam um futuro que Portugal naquela altura não dava. Mas como é que eles interagiram depois? Será que cortaram completamente os elos com Portugal, ou que, bem pelo contrário, participaram no momento dessas ligações? É o que nós pretendemos fazer. Portanto, antes do fim do ano vai haver uma espécie de catálogo completo de como é que os municípios franceses poderão participar
celebrar.
E nós enviamos o primeiro correio, e os 150 que responderam apenas mostram, e daí a importância da ligação também com os municípios portugueses, mas mostram que realmente a França tem esse interesse.
Ora, precisamente, Sr. Presidente João Esteves, é uma ocasião para mobilizar a casa, ou as casas dos arcoenses, por esse mundo fora, para celebrar também o 25 de Abril?
Sim, porque, repara, o 25 de Abril trouxe-nos muitos êxitos. Julgo que o maior êxito de todos, é o reconhecido por todos, que é liberdade. Liberdade, democracia. Essa, sem dúvida alguma, a gente poder, dentro do respeito pelos outros, poder traçar o futuro de cada um de nós, das nossas terras, desenvolver-nos. E esse é o maior legado do 25 de Abril, e aquele que deverá perdurar para o futuro. Mas há duas coisas importantes no 25 de Abril que estão hoje aqui em cima da mesa e que me parecem absolutamente interessantes, que é as terras, os municípios, o poder autárquico em Portugal e por esse mundo fora é aquele que tem feito transformar mais rapidamente as terras. E em Portugal isso é evidente, ou seja, são as câmaras municipais, as juntas de freguesia que mais trabalharam para o desenvolvimento do país como um todo. E esse poder local que hoje também aqui estamos a falar, quer seja em Arcos Valdevez, quer seja no Hermano, quer seja nos sítios onde os milhares de portugueses que estão espalhados por toda a França participam nas câmaras, é esse legado de proximidade que nós trouxemos. E há um outro, que também está muito claro com o 25 de Abril. É que no dia 23 de Abril, nós tínhamos que fugir de Portugal, muitos fugiram de Portugal, às escondidas. No dia 24 e no dia 25, nós podemos passar e dizer que estávamos livres e escolher o futuro. Era um futuro à procura de melhor, mas era, sem dúvida alguma, a melhor que nós queríamos para nós e para os nossos. E esse tem que ser o legado. Num dia, num mundo conturbado como hoje está, a Rosa bem fazia ideia e bem queria levar avante aquela sociedade, aquela associação das comunidades europeias, dos europeus, porque exatamente esse é o espírito que nós hoje devemos fazer prevalecer. Bem-haja a Rosa por essa iniciativa, que a gente consiga todos fazer esse espírito de ajuda, de sociedade justa que queremos, sociedade evoluída que queremos, e que ela se faça com os povos. E esse é o ensinamento de 25 de Abril, sem dúvida alguma, que isso não vamos poder esquecer, e portanto essa mensagem passará pelo mundo inteiro como um contributo dos portugueses nesses últimos 25 anos do século XX, mas sem dúvida alguma para este século XXI.
Sr. Presidente, agradeço. E um dia deste vamos fazer o balanço precisamente daquilo que foi decidido ou não no Congresso dos Municípios das Regiões da Europa.
Muito obrigado. Um grande abraço para o Hermano. Vamos nos encontrar em mais uma sessão de promoção entre empresas francesas, empresas portuguesas, câmaras. E, sem dúvida alguma, este é que é aquilo que nos faz mover. Portugueses,
exatamente,
espalhados pelo mundo, interessados em desenvolver as terras onde estamos, na terra de qualquer um. Muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado pela memória que hoje trouxeram aqui da Rosa, uma grande sujeira, uma grande arcoense, uma grande mulher portuguesa e, sem dúvida alguma, uma grande mulher em França, que muito fez também, quer por uns, quer por outros, e que certamente nos será a inspiração para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado igualmente, Hermano Sanches, de maneira que, bom, como se falou já do dia 14 de novembro no Porto, bom, aguardamos que alguns dias depois possamos ter as conclusões desse encontro, e aí já teremos talvez mais detalhes, precisamente, sobre a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, por mais de uma centena, aparentemente, de municípios aqui em França. Hermano Sanches?
Sim, peço desculpa. Sim, Beaja, sim, essa ideia. Primeiro, Beaja, por essa memória, porque eu acho que é importante, é uma maneira de mostrar também quantos eleitos franceses de origem portuguesa podem ter um papel muito concreto na sociedade onde nós estamos. Essa ideia do 14 de novembro, essa ideia dos 50 anos do 25 de Abril, mas de forma mais alargada, nós não devemos apenas pensar em 2024, mas também em 2025 e 2026, uma vez que os nossos mandatos vão até 2026, é como é que nós podemos meter um bocadinho mais programação portuguesa, é isso que é importante. Portanto, espero que podemos também fazer um relatório de como é que as coisas estão a avançar. 750 municípios que mostram, franceses que mostram interesse em falar da Revolução Portuguesa, é uma coisa que nunca aconteceu. É prova mesmo que Portugal pode desfrutar de uma rede que ele nem sequer, ou que muitas vezes nem sequer apoia ou dinamiza, porque ainda não tem isso muito na sua mente, mas Portugal tem essa capacidade em mobilizar cidades, municípios franceses, como sequer nunca antes. Portanto, é bom também poderem responder e terem essa presença, é o que nós todos esperamos, mas quem está a desenvolver primeiro o projeto? Somos já nós, os eleitos franceses de origem portuguesa, dentro das nossas câmaras.
É isso que queremos e vamos acompanhar isso a par e passo. Hermano Sanches, muito obrigado. Lembro, conselheiro municipal de Paris e, para já, o primeiro encontro vai ser após o 14 de novembro, depois desse congresso no Porto, e vamos acompanhar, evidentemente, e apoiar todas as iniciativas das câmaras municipais aqui em França para celebrar o 50º aniversário do 25 de Abril. Obrigado, Hermano Sanches.
Bem-aja.
Alguém en direct de passage à niveau ce dimanche 22 octobre. On va parler de l'actualité française, mais ça passe aussi par la Palestine. Déjà, on va revenir aux élections sénatoriales qui ont eu lieu au mois de septembre. Quel bilan dans le 94, mais on parlera également du budget 2024. La partie recette a été approuvée sans débat à l'Assemblée nationale grâce au 49.3. NUPES, quel futur? Qu'est-ce qui va se passer? Et bien entendu, on parlera également des répercussions en France de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Monsieur Pascal Savoldelli, merci. Merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Merci à Radio Alpha de m'inviter une nouvelle fois.
Alors, vous êtes sénateur du Val-de-Marne. Et justement, alors commencez par les résultats. Quel bilan vous faites finalement des élections qui ont eu au mois de septembre au point de vue de la gauche dans le 94?
Bah, écoutez, moi j'avais expliqué, et je n'ai pas fait qu'expliquer. J'ai mené une campagne prouvant qu'on pouvait avoir trois sénateurs de gauche. Mmh. Et donc, malgré les résultats qu'avait obtenu la droite aux dernières municipales, en ayant gagné quatre villes et en ayant gagné le département. Donc le principal, d'abord, enseignement de cette élection sénatoriale, c'est qu'on a mis la droite en échec.
Voilà, mais en même temps, et là on va rentrer parler directement avec le futur de la NUPES, c'est qu'au niveau de 94, et pas seulement, il n'y a eu aucun candidat, la France insoumise, donc les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de l'acte terroriste du Hamas contre l'État d'Israël. Donc pourquoi LFI ne faisait pas partie de l'alliance de gauche pour les sénatoriales en 94?
D'abord, dans le Val-de-Marne, vous avez pu observer qu'il y avait la liste que je conduisais, qui était la liste soutenue par 14 des 15 maires de gauche du département, soutenue par plusieurs partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste, Génération.S, une autre liste conduite par Aki Mellouli, ex-dirigeant du Parti socialiste, et la France insoumise a aussi déposé une liste et recueilli un certain nombre de voix d'électrices et d'électeurs. Et c'est cette configuration-là, qui aurait pu, à mes yeux, être une configuration plus unitaire, a quand même eu les résultats qu'on peut observer, c'est-à-dire deux sénateurs et sénatrices, ma liste était la seule qui pouvait faire élire une femme, et puis l'élection d'Aki Mellouli, ce qui fait qu'on n'est pas trop de trois, puisqu'il y a six sénateurs et sénatrices élus en Val-de-Marne. Et je suis très content d'ailleurs que le maire de Saint-Maur, qui aurait sûrement, s'il avait été élu, aurait tout de suite abrogé la loi SRU, alors que notre département compte 100 000 demandeurs de logement dans le Val-de-Marne. Après, la question que vous me posez sur la NUP, la FI et le conflit israélo-palestinien, je trouve...
Ça, on en parlera tout à l'heure, justement, parce que je veux passer un petit extrait d'une intervention que vous avez faite sur les réseaux sociaux là-dessus. Mais, bon, voilà, mais on dirait qu'il y a une rupture entre tous les partis qui font partie de la NUPES avec LFI, la France insoumise. Parce que ce n'est pas pour rien que le secrétaire national du Parti communiste a dit « Bon, c'est fini, il faut qu'on cherche une autre alliance et une autre façon d'avoir une alliance à gauche. » Quels sont les principaux problèmes, les principales contradictions? Qu'est-ce qui vous oppose finalement à France insoumise?
D'abord, la NUPES, c'est une construction liée à un processus électoral. La présidentielle, et à la présidentielle, toutes les forces de gauche ont mis dans le débat un candidat. Donc cet accord est un accord électoral qui a tenu compte des résultats des élections présidentielles. Oui. Et a permis quand même qu'il y ait près de 150 députés, femmes et hommes, de gauche et de différentes sensibilités politiques. Donc c'est quand même pas rien. Après, il y a des débats trop conflictualisés. Et ces débats conflictualisés ne sont pas sur des raisonnements argumentés. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Parce que une dynamique unitaire des forces de gauche, elle appartient évidemment aux partis politiques qui forment ce qu'on appelle cette coalition, mais elle va bien au-delà de ceux qui appartiennent au Parti communiste, à la France insoumise, au Parti socialiste, à Europe Écologie Les Verts. C'est bien plus large que ça. Toutes les électrices et électeurs qui ont voté aux dernières législatives pour élire un ou une députée de gauche ne sont pas membres d'un parti politique. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce pays et dans mon département, y compris que j'adore le Val-de-Marne, qui ne sont pas seulement sur des dynamiques liées à l'ensemble des forces politiques de la NUP. Je vais vous prendre un sujet, j'en prends un qui me tient à cœur, mais comme d'autres. Mais par exemple, cette question du droit à l'alimentation. Il y a eu un collectif pour la sécurité alimentaire qui s'est réuni la semaine dernière. Je peux vous dire que les sénateurs et députés étaient de toute sensibilité et ça allait au-delà de la NUP. Et je pourrais vous prendre plein d'autres exemples de cette manière-là. Donc il faut, faire attention. Je crois qu'il y a une distanciation, c'est clair. Et qu'il faut renouer sur des débats contradictoires. Vous le savez, je suis un défenseur du débat contradictoire, mais avec une stratégie plus apaisée, une volonté de rassemblement et une boussole, parce que on peut pas se déjuger les uns et les autres en dehors d'une boussole. Et la boussole, c'est l'intérêt général et la défense des plus vulnérables.
Mais, monsieur le sénateur, on vit dans une crise économique, une précarité qui augmente. Bon, parlons pas de besoin de logement, etc., etc., etc. Mais on dirait que le débat à gauche, au lieu de parler de résoudre, d'avancer des propositions pour résoudre les problèmes de la majeure partie du peuple de France, finalement, tout se cristallise sur une des personnes. Jean-Luc Mélenchon. Les gens qui sont dans le besoin, ils comprennent pas ces débats.
Ah ben, ce qui est sûr, c'est qu'il est tout observateur raisonné voit bien qu'un certain nombre de prises de position de Jean-Luc Mélenchon sont pas sans conséquences pour l'alliance de gauche. Mais c'est des fois vrai aussi de d'autres dirigeants politiques, d'autres partis politiques qui sont dans la NUP. Donc, le problème, c'est que dans le contexte actuel, il faut privilégier c'est ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et en évitant les polémiques personnelles. Et je vous le dis avec sérieux, vous avez raison. Il y a trop d'injustices, trop d'inégalités dans la société française. Et en plus, avec la situation internationale dont on va parler, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à construire une alternative. Et cette alternative ne passe pas seulement et uniquement par le champ électoral. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon en particulier, des fois d'autres aussi, n'ont les yeux rivés que sur la prochaine présidentielle de 2027. Mais il y a beaucoup de choses à changer maintenant. Il y a une alternative politique à construire maintenant, si on veut une politique progressiste. Mais on est dans une situation de crise systémique. Voyez bien que la question, les accélérations qui sont... on parlait des 100 000 demandeurs de logement dans le Val-de-Marne, mais j'avais le président du Resto des Cœurs, du Resto du Cœur à Ivry qui m'expliquait 1460 repas de délivrés par ces bénévoles, ces volontaires. Il y a près de 500 à 600 personnes qui n'ont aucune ressource aujourd'hui. Aucune ressource. Vous voyez, dans ces cas-là, la question, c'est pas seulement d'être rivé à sa propre candidature en 2027, c'est de construire un rassemblement qui doit être populaire, social, mais aussi politique.
Mais justement,
et c'est ça qui doit guider l'intervention des hommes et des femmes politiques en responsabilité.
Et en même temps, bon, l'extrême droite, elle se renforce. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 88 députés l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ça donne à réfléchir aussi.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'étais très content que dans notre département, par exemple, il n'y a pas de sénateur du Rassemblement national. Mais il faut mener les combats d'idées. Si on ne change pas, si on n'est pas sur le terrain d'ouvrir une perspective au capitalisme, mais évidemment, et on le voit dans d'autres pays en Europe et de par le monde, on arrive à des dictatures. Parce que là, on est dans un moment où on voit bien qu'on a une crise d'un capitalisme qui est multinational. Et donc, ça fait le lit aussi d'idées populistes et d'une demande d'ordre à travers une personne. Et ça, c'est toute la ligne du Rassemblement national.
Alors,
donc, l'effort politique est énorme. Et il n'y a pas d'autre effort que de démocratiser la question de l'espoir, de changer la vie.
Alors, à propos d'espoir et de démocratie, donc, je ne sais pas combien, c'est passé le 13e, 14e, 49.3 de la Constitution qui est utilisé. Cette fois-ci, ça concerne justement le budget de l'État, le projet de loi de finances, côté recettes. Alors, il n'y a pas eu un seul débat à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, vous allez hériter bientôt ce texte au Sénat.
Là, par exemple, ça, l'article 49.3, c'est une arme constitutionnelle qui maintenant se banalise, et ça constitue un étau institutionnel et démocratique. Les citoyens et les citoyennes, comment ils vont développer leur citoyenneté, leur esprit critique, quand on coupe court au débat à l'Assemblée nationale? Vous imaginez, ça fait 13 fois depuis les dernières législatives de 2022 que le ou la Première ministre utilise cette arme-là. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, il est minoritaire et il a peur et il évite les votes négatifs. Et vous avez raison. Bien sûr qu'il y a des propositions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ? Quand la commission des finances à l'Assemblée nationale vote un amendement sur la taxation des super-profits réalisés par les entreprises, ou quand le gouvernement refuse la mise en place d'un impôt sur la fortune climatique, ou encore quand on va refuser la flat tax sur les revenus fonciers, c'est-à-dire l'imposition des revenus du capital sur l'immobilier. Vous voyez, ça crée des frustrations, ça crée des humiliations. Et pendant ce temps-là, les injustices et les inégalités se creusent. Ça, c'est le terreau du Rassemblement national.
Monsieur Pascal Savoldelli, on a eu deux événements presque concomitants. D'une part, l'attaque terroriste du Hamas contre le territoire et surtout contre des citoyens israéliens, d'une part, et d'autre part, à Arras, l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Alors, vous avez réagi, donc c'est sur les réseaux sociaux, j'ai enlevé un petit extrait. Bon, c'est subjectif, ma part, vous dites qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense qu'en résumé, c'est un peu la façon comment vous voyez la situation actuelle, que c'est une véritable poudrière, et pas seulement pour le Moyen-Orient. Mais on va écouter un petit extrait que j'ai choisi.
Disons-le d'emblée, toute violation des droits humains constitue un fait insupportable. On ne peut pas accepter l'intolérable et inexcusable offensive terroriste perpétrée par l'organisation islamiste Hamas. On ne peut pas non plus accepter que des innocents à Gaza subissent par ricochet une vengeance de feu. Tout cela constitue un cercle sans fin de terreur. L'ONU a appelé à un cessez-le-feu total et immédiat. Elle doit être écoutée et ses résolutions appliquées.
Monsieur le sénateur, une réaction ?
Bah écoutez, je pense que ces propos-là sont encore d'actualité. On est dans un cercle sans fin de terreur, ce que je disais déjà la semaine dernière. Ah, là, on a des otages qu'il faut libérer. On a une population à Gaza qui était quand même une population de 2 millions d'habitants sur une bande de 40 kilomètres qui vivent bombardement, qui sont affamés, qui manquent d'eau, qui manquent de soins hospitaliers, on a du mal à ouvrir ce cordon humanitaire et sanitaire. Il y a une urgence. Enfin, on est dans une situation extrêmement grave d'abord pour les populations. Et moi, je le dis et je le redirai, mais il ne faut pas confondre les peuples avec les hommes ou les forces politiques qui prétendent à tort ou à raison les représenter. Je le redis, moi, le Hamas, c'est le contraire de la démocratie et de l'émancipation des femmes. Voilà. Et je pense que le peuple palestinien, il est d'une certaine manière prisonnier du Hamas, cette organisation islamiste qui choisit le terrorisme. Mais de l'autre côté, et ça, on ne peut pas nous dire de nous taire, le pouvoir israélien fout toutes les règles internationales depuis des décennies. Il a ignoré 400 résolutions votées par l'ONU contre la colonisation. Et là, on en est à combien de milliers de morts ? De milliers de morts d'enfants, de femmes, d'innocents. Donc c'est pour ça qu'il faut manifester, il faut exiger le cessez-le-feu. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de solution militaire au conflit. La seule solution va être diplomatique. Et moi je le dis avec force, il n'y a pas une vie qu'en vaut une autre. Il faut arrêter la fin de la colonisation. Il faut cesser toute activité guerrière dans cette partie du monde. Il faut libérer les otages, bien évidemment, et aussi les prisonniers politiques. Et il faut que le droit international s'impose. C'est la seule et unique boussole possible. Et là, il faut qu'il y ait une mobilisation de la France.
Mais la France, justement, bon, on dirait que les choses ont beaucoup changé hein, depuis la présidence de Jacques Chirac. Est-ce que la France, on dirait que s'est alignée sur de nos principes. En tout cas, elle est complètement disparue. L'Europe aussi a disparu des conflits au Moyen-Orient.
Ah, mais je pense que la France doit réaffirmer par son président de la République la position historique, qui n'était pas une position binaire, mais qui agissait pour une solution diplomatique et pacifique pour ces deux États. L'État d'Israël aux côtés de l'État de Palestine, c'est la sécurité pour les deux peuples, c'est la sécurité pour le Proche-Orient et c'est la sécurité pour l'ensemble du monde entier. Pourquoi ? Parce que la France, elle doit dire haut et fort sa tradition. C'est une tradition de liberté politique, d'expression, de pensée, de religion et d'égalité. C'est nos valeurs. C'est ce modèle-là qui doit être affirmé. Donc il faut prendre beaucoup d'initiatives.
Mais on a vu ça hier. Hein. Donc hier, le point de passage de Rafah a été ouvert. Il y a 20 camions, je dis bien 20 camions, quand le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit qu'il faudrait au moins 100 camions par jour. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la communauté internationale, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire cette phrase-là, que ça veut dire communauté internationale, mais enfin, personne impose finalement d'empêcher qu'une population de 2,4 millions de personnes assoiffées, rien à manger, pas d'électricité, pas de carburant, rien du tout. C'est-à-dire, bon, 20 camions, c'est quoi ça? C'est une goutte d'eau, hein, comme disent les organisations d'aide aux réfugiés.
Mais là, vous avez raison, donc c'est pas 4 millions, hein, c'est 2 millions.
2 millions 4, pardon, 2 millions
4. Mais là, c'est sûr que ça peut pas résoudre la catastrophe qu'il y a du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui plutôt favorise le Hamas, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc vous avez raison, il faut que l'aide humanitaire et sanitaire prenne une toute autre ampleur. Et pour qu'elle prenne une ampleur, il faut aussi faire le cessez-le-feu immédiat.
Oui, mais qui
on peut pas, on peut pas construire un corridor unitaire et sanitaire en dehors d'un cessez-le-feu immédiat. Écoutez, on peut pas transporter de l'alimentation, transporter du matériel médical, etc., s'il n'y a pas un corridor, s'il n'y a pas une organisation autour d'un cessez-le-feu immédiat.
Oui, donc il y a un drame pour des peuples, parce que l'Israël aussi, bon, plus de 1300 morts. Hein, côté palestinien, ça a largement dépassé les 4000 morts. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, mais qui peut imposer ça? L'Organisation des États-Unis, des Nations Unies, plus personne la respecte. Les États-Unis, sont alignés sur Israël, mais qui pourra faire quoi?
Mais moi, je pense que, je vais vous dire là, je pense qu'il devrait y avoir une très grande initiative internationale. Mmh. On peut pas rester sur le droit de veto, par exemple le droit de veto des États-Unis. On peut pas accepter un droit de veto quand il faut dire aux dirigeants israéliens, et non pas au peuple israélien, mais aux dirigeants israéliens, d'arrêter de coloniser, d'arrêter d'envoyer des bombes et de bombarder des innocents. Il faut élargir. Donc, il faut une assemblée très large, à mon avis, avec d'autres dispositifs qui vont faire entendre le droit international. Il faut mobiliser beaucoup plus d'États et de pays que seulement le secrétariat de l'ONU. Ok, voilà, et la France pourrait accueillir, pourrait solliciter de réunir 100, 120, 130 pays qui sont disponibles pour qu'il y ait la paix dans cette partie du monde. Et là, il faudrait faire entendre raison. Oui, il faut faire taire les armes.
Bon, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein, justement. Oui. Et tous les jours, il y a des victimes, hein, des gens qui meurent. Et c'est aussi catastrophique, notamment au niveau des enfants, hein, ce sont les organisations humanitaires qui parlent, c'est pas moi. Monsieur Pascal Savadelli, merci. Donc, je rappelle, vous êtes sénateur du Val-de-Marne et on va suivre de près tout ce qui se passe au niveau de 94, mais pas seulement, même au niveau du Sénat, et on reviendra à vous. Dans la mesure, on parle justement de la privatisation des bus, les RATP, il y a une proposition de loi, justement, du Sénat là-dessus. Voilà, faire de l'ouverture à la concurrence un processus fluide et sans perdant. Bon, je cite le texte, hein, j'ai un petit résumé de tout ça. Merci, monsieur le sénateur, et à très bientôt.
Merci à vous, bonne continuation.
Merci, au revoir. E nós estamos aproximados das 13 horas. Lembro passagem Nível com a difusão na noite da quarta para quinta-feira, sem esquecer o podcast.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
aos domingos, entre 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da passagem em nível neste domingo, desde outubro, o Jantar de Gala da Beneficência da Santa Casa de Misericórdia em Paris tem data 18 de novembro às 20 horas na Sala Vasco da Gama, evidentemente, esta em instalações da Rádio Alfa em Valenton. Ilo Nunes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Alfa.
Muito boa tarde, Sr. Silva. Estou um pouquinho rouca, espero que me percebam bem.
Está perfeitamente. Ora, lembra, é provedora da Santa Casa de Misericórdia de Paris. Tanto vai ser a edição 2023 deste Jantar de Gala. Ora, há que começar pelo princípio, é que trata-se de uma iniciativa para já de confraternização, mas sobretudo de angariar fundos para que a Santa Casa possa ajudar os portugueses que vivem em precariedade, e a situação continua a agravar-se, não é?
Exatamente, que hoje temos cada vez mais pedidos de ajuda. Isto não é só na população portuguesa, é em toda a população, e é mundial, quase. Portanto, necessitamos precisamente de angariar fundos, como acaba de dizer, e o Jantar de Gala, o único objetivo é esse, é angariar fundos para depois podermos ajudar quem precisa. É evidente que também vai ser uma festa, que as pessoas vão poder divertir-se e passar um bom momento na Sala Vasco da Gama. Mais uma vez, muito obrigado aos dirigentes da Sala Vasco da Gama, porque é um local que desde o início nos emprestaram para realizar o jantar. E esperamos que, já temos bastantes inscrições, mas faço apelo a todas as pessoas que possam vir, que venham, que se inscrevam. O site da Santa Casa tem tido alguns problemas ultimamente, mas em todo o caso a inscrição no jantar está disponível e em 3 ou 4 cliques podem se inscrever. Temos mesas de 8, 9 ou 10 pessoas, mas se for só um casal ou só uma pessoa, também será bem-vinda e vai conhecer outras pessoas que ainda não veio, e teremos um momento de cantos, etc. Também.
Mas é precisamente uma novidade para mim, não sei se não sei que esteja errado, música clássica com Vanessa Miranda.
Não.
Não é Vanessa Miranda, mas não é Vanessa.
A Vanessa vai cantar, como ela sempre muito bem faz, efetivamente, e aproveito para dizer que não há cachê, portanto, também vêm para ajudar a Misericórdia, todos os artistas vêm para ajudar a Misericórdia a ajudar quem precisa. A música clássica é uma jovem que virá, portanto será uma primeira no nosso jantar de gala. Eu ouvi o que ela faz e gostei imenso, portanto normalmente viria um grupo, mas por agora, como não temos confirmação ainda, preferimos dizer simplesmente uma jovem de origem portuguesa que vem, portanto, fazer-nos ouvir música clássica, e que vai ser um momento muito, muito simpático.
Vai ser uma espécie de recital. Ora, a Vanessa Miranda e o DJ Paulo. DJ, olha,
exatamente,
quando se fala de
mais
DJ...
Uma vez, quando se fala de DJ, depois já dança, claro.
Era isso que eu estava a pensar imediatamente. Ora, do que depois já dizemos, as inscrições vão às redes sociais, vão ao Facebook, podem obter isto tudo. Ora, no dia 18 de novembro, mas já estamos pertinho de Natal, penso que vocês vão aproveitar precisamente essa deixa, porque para já, voltando ainda este jantar de gala de solidariedade, é uma boa ocasião também para alertar e lançar um apelo às pessoas que vão estar nesse jantar, que também possam dar um bocadinho do seu tempo e ser benévolos para a Santa Casa, não?
Exatamente. Nós, felizmente, ultimamente houve bastantes pessoas que vieram e que estão a trabalhar. Nós criámos grupos de trabalho por atividades e estão a trabalhar muito bem. Deixo aqui também um agradecimento particular para eles todos, porque não jamais dizem que estão cansados e, no entanto, trabalham, mas isto é mais, mas o que fazem é fantástico. Já agora queria simplesmente voltar um pouquinho atrás, porque também temos uma artista plástica, Cátia Esteves.
Ah, foi feito.
Exatamente, que vai leiloar uma obra dela, que será, pronto, como cada ano há um artista, felizmente, temos pessoas que têm um bom coração, e essa obra, como habitualmente, será leiloada para depois que esses fundos também sejam revertidos para a Santa Casa. E se não, efetivamente, estamos a trabalhar com jovens que chegaram há pouco tempo, pessoas que chegaram há pouco tempo, mas são sempre bem-vindos. Todas as pessoas que quiserem vir ajudar, pois nunca serão demais para ajudar.
A propósito desses grupos, há vários grupos que necessitam ser reforçados. Para já, no capítulo Ação Social, permanências telefónicas, um grupo que carece de mais pessoas ativas, não é?
Exatamente, porque é evidente que pode parecer um pouco complicado quando se tem que responder ao telefone e que se está ocupado ou que está a trabalhar ou isso, mas há a possibilidade de fazer a permanência telefónica e se não se responder imediatamente, pois pode-se telefonar mais tarde, a pessoa basta deixar o número de telefone. E ou outro voluntário, ou o próprio que está com a permanência telefónica, telefona mais tarde e a pessoa pode, precisamente, e recebemos cada vez também mais chamadas. É verdade que o nosso amigo Abelio Lopes está muito atento a tudo isso e muito presente nas permanências telefónicas. Ultimamente também temos a nossa amiga Teresa Pussier, que muitos auditores, ouvintes, podem, certamente conhecem e podem identificar, mas assim, se há pessoas que têm um pouco de disponibilidade, não há que ter que recear, não ser capaz de responder, porque não se dá a resposta imediatamente, não se resolve o problema, melhor, imediatamente. Pode ser um problema que até seja um processo administrativo, que nós vamos receber depois, vamos ajudar. Há imensos pedidos diversos e variados, e as pessoas podem deixar também uma mensagem, e se não tiverem a resposta imediatamente, mas ajudamos sempre.
Ora, no que diz respeito a esta ação social, permanências telefónicas, citaria ainda Maria Natália Fernandes, Ana Filipe Domingues, Luís Rodrigues, para além de Teresa Pussias, para não esquecer. Ora, há um outro grupo que é bastante importante, e que eu saiba, só uma advogada quer referir ao grupo jurídico, atualmente é a Maria Gracinda Maranhão Guiton, precisamente, que está neste grupo, mas aí, e nós sabemos que há muitos advogados de origem portuguesa aqui na região presidência, de maneira que êtes-vous?
Exatamente. Precisamente a doutora Maria Gracinda Maranhão já propôs também uma outra colega, mas não é suficiente, é evidente. Que infelizmente não é só a pobreza, não é só a falta de dinheiro para viver. Por vezes as pessoas encontram-se em situações complicadas e, portanto, precisam de um advogado. E, infelizmente, não têm o necessário para se dirigirem ao advogado, e às vezes mesmo por problemas de língua também. Não, nunca é fácil ir contactar um advogado. E nós, claro, estamos atentos a isso, e também muito obrigada, Arthur, por fazer apelo aos outros advogados de língua portuguesa, que venham muitos, porque os grupos de trabalho, eu fiquei contente que saiba o nome daqueles que respondem ao telefone. Falta lá ainda alguns, mas pronto, tudo bem, esses já são os mais presentes. Mas pronto, os advogados, seria talvez até bom que houvesse uma linha telefónica para os advogados, que fizessem também uma permanência, sei lá, tenho muitas ideias, depois é necessário pô-las a funcionar. Em prática, exatamente.
Hilda Nunes, para já o principal destaque, é o jantar de gala da Beneficência 2023, sábado 18 de novembro às 20 horas. Vamos ter música clássica, participação também de Vanessa Miranda, DJ Paulo, sem esquecer igualmente a oferta de uma obra da artista plástica Kátia Esteves. Podem se inscrever através das redes sociais, Facebook e por aí fora. Uma última questão, e dando-nos, avançou o vosso projeto de implicar os consulados de Portugal e mesmo as instituições expressa França fora, para que finalmente o trabalho da Santa Casa Misericórdia de Paris saia um bocadinho aqui dos contornos da capital, ou não?
Avançou, olha, ainda por acaso ontem à tarde tivemos uma reunião por videoconferência para não termos que nos deslocar a Bordeus e, portanto, o projeto está a avançar de uma maneira bastante consequente e na próxima terça-feira irei com outro dos meus colegas a Lyon, ao consulado de Lyon, onde também vamos contactar várias associações e outras estruturas para ver como é que nós podemos avançar com esse projeto em Lyon também. Depois haverá Estrasburgo e Marselha, provavelmente, antes do fim do ano. Pelo menos assim tentaremos fazer. É evidente que por vezes falta-nos o tempo, porque, pronto, não somos suficientes mesmo assim, mas quero deixar aqui mesmo assim esta nota positiva. Houve neste novo mandato que começou a 16 de setembro passado, houve muitos novos aderentes e sobretudo pessoas que manifestaram o desejo de virem ajudar e de trabalharem com a misericórdia no dia a dia para ajudar as pessoas que fazem apelo a nós.
Isso é que é perfeito, e já agora, já que a Ilha não nos falou de Lyon e Estrasburgo, a Rádio Alfa pode ser ouvida precisamente nessas cidades e à volta, graças ao DAB+, é como que diz, a Rádio Digital, e estamos igualmente em Lille, sem esquecer Paris. Bom, portanto, esse projeto tem pernas para andar e aparentemente já lançou pernas ao caminho, é quase dizer.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Ilha Nunes.
Se me permite só mais uma informação, no dia 11 de novembro, portanto na véspera do jantar, vai haver no Consulado Geral de Portugal em Paris a jornada social o tema é direito humano à habitação e alimentação adequadas. E, portanto, no ano passado foram convidados menos pessoas, mas este ano convidamos todas as pessoas que quiserem vir. Portanto, é das 14 às 17 horas no Consulado Geral de Portugal em Paris, venham. Haverá pessoas que venham de Portugal, por exemplo, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, haverá a diretora do Serviço de Inclusão da Cruz Vermelha Francesa, haverá a diretora da Ação Social do EMAIUS e presidente da Fundação Abbé Pierre. Portanto, será extremamente interessante quanto a mim e poderemos provavelmente encontrar algumas propostas, se não respostas, a todas as dificuldades que as pessoas precisam de resolver. E, portanto, todas as associações e pessoas individuais são bem-vindas. É verdade que a sala essa de Queiroz não é enorme, mas infelizmente muitos trabalham, ou felizmente trabalham, porque alguns gostariam de trabalhar e não trabalham. Portanto, infelizmente nem todos estão disponíveis, mas se por acaso desta vez houver muita gente, pois a sala vai se encher e na próxima vez tentaremos fazer numa sala maior. Mas em todo caso, fica aqui o convite, sobretudo para as associações parceiras da Santa Casa, venham, porque é importante debatermos sobre este tema, o direito humano à habitação e alimentação, que houve muito falta.
Fundamental, mas voltaremos ao assunto antes disso, precisamente, e se é possível mesmo, podemos fazer uma pré-entrevista com alguns dos seus intervenientes, e isso, a promessa está feita e, em princípio, é cumprida. Ilha Nunes, muito obrigado e até muito breve, então.
Muito obrigada a si e a todos. Com licença.
E dentro de alguns tantos vamos falar de quantos é que já lá vão? 35 aninhos. Mas é que fica o cheirinho e vão compreender de que associação se trata. Delim tafka, tarazah.
de chorar da rogação. Vou falar, fiz Deus peima. Dele me tá ficar, tá arrasado, só pavô. Tá sentindo pena profunda de viver longe e boa. Odor de ternura e desventura tá aumentando valor de boa.
Mariana Ramos, Mariana Ramos, o título de merecimento de Mariana Ramos, que faz parte também do elenco artístico. É bem, pourquoi je parle en português? Pourquoi pas? Bom, je sais pas parler créole, bon, enfin, c'est dommage. Va être le samedi 28 octobre, salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e, entrée libre. Karine Navrito, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous les auditeurs et aux personnes présentes.
Voilà, bon, c'est une voix que nos auditeurs connaissent, mais Madame la Présidente de CHEG, Association Crianças de Hoje e de Amanhã. Ça a été le 8 novembre 1988 qu'un certain nombre de personnes, bon, je ne peux pas citer toutes, mais enfin, ouais. Annie, Fatou, je peux continuer la liste comme ça parce que, heureusement pour moi, donc, et ça, bon, ça me vieillit, mais tant pis pour moi. Donc, il y a 35 ans, bientôt, ça va faire 35 ans, l'ASSO a été créé, bon, j'ai suivi ça de près, Radio Alpha existait déjà, donc on peut dire que avec vous, c'est la deuxième, troisième génération qui a pris le relais.
La troisième du coup.
Voilà, oui, voilà.
C'est ça. Eux, c'était déjà la deuxième, donc oui, la troisième.
Donc, c'était bon. Et peut-être revenir au départ, quels étaient les objectifs de ce groupe, surtout de femmes d'ailleurs.
Oui, c'est un groupe, c'est vrai, surtout de femmes, mais il faut dire que l'initiative est venue d'un homme, donc Elisio Lopez, qui a réuni ses amis, ses frères et sœurs, cousins, cousines, et s'est dit oui, en fait, ils avaient tous l'envie de faire quelque chose pour le Cap-Vert, le pays d'origine, des parents ou de certains d'entre eux qui sont nés au Cap-Vert. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais avant tout, il fallait garder le lien entre la France et le Cap-Vert. Et donc, plutôt que de faire... il y avait pratiquement, à l'époque, les associations, il y avait beaucoup d'hommes. Et donc, ils ont pensé à faire une association de femmes, mais finalement, ils se sont dirigés vers l'enfance, la petite enfance et la famille, d'où le nom « Crianças de Hoje e de Amanhã ». Donc, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas portugais, « enfants d'aujourd'hui et de demain », c'est vrai qu'on utilise beaucoup le sigle maintenant en disant « CHEDA » pour « Crianças de Hoje e de Amanhã ». Et du coup, comme tu l'as dit, Arthur, on arrive aux 35 ans. Donc, il y a eu une passation entre la génération des membres fondateurs et la jeunesse de la diaspora capverdienne.
Aujourd'hui.
Il y a quelques années, exactement. Donc, on est dans la continuité, mais il faut savoir que c'est un groupe qui est intergénérationnel. On est à différentes générations. On travaille tous ensemble avec un objectif commun qui est l'entraide et la solidarité envers les communautés capverdiennes au Cap-Vert sur les différentes îles. On a déjà eu des actions sur différentes îles. C'est vrai que dernièrement, on a beaucoup plus d'actions sur San Vicente parce qu'on a des personnes là-bas, puisque maintenant, elles partent aussi à la retraite.
Annie, entre autres, par exemple.
Voilà, exactement, Annie, qui fait pas mal de choses, dont toutes les semaines, on continue de les tours. On a toujours les parrainages avec IC, qui est l'Institut des Crianças et des Adolescentes de Cap Verde. On a toujours le projet Handiclass et en fait, on en développe d'autres. Et on est en train de voir aussi comment reprendre des projets sur Praia, sur Saint-Ain. Enfin, l'idée, c'est vraiment de couvrir le Cap-Vert dans sa globalité.
Mais Karine, justement, parce qu'il y a, je me souviens des conteneurs qui partaient au Cap-Vert avec des fournitures scolaires. Ça, c'est quelque chose d'écartable, des trucs comme ça.
Exactement. Il y a le conteneur qui part avec des fournitures scolaires et bien plus encore. On envoie aussi du matériel médical, on peut envoyer des vêtements, on peut envoyer enfin toutes sortes de choses, des dons qui sont faits par des personnes vivant en France, majoritairement de la communauté capverdienne, mais pas que. On a aussi nos amis de la communauté portugaise, nos amis de des communautés françaises et autres qui partagent l'objectif. Et qui croient aussi au projet. On a fait en 35 ans plus d'une vingtaine d'envois par conteneur, mais comme tu le sais, Arthur, c'est quelque chose qui est très coûteux. Et c'est vrai que on sait récolter les dons, on sait les stocker, on sait faire les conteneurs, mais avoir les moyens de l'envoyer, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de finances. On a eu des partenaires qui nous ont aidés tout au long, dont par exemple la MRTI qui nous a fait les transports. On a eu pas mal de partenaires de Cap-Verdien comme les Africa et bien d'autres. Je peux pas tous les citer. On a eu aussi le Mikado qui nous a beaucoup aidés en mettant à disposition en ayant le lieu pour faire nos Noëls des enfants pendant des années. Et bien plus, là le temps est court pour pouvoir les citer, mais justement cette rencontre du 28, c'est aussi le moment de revenir un petit peu, faire quelque sorte un bilan et remercier toutes les personnes, et notamment la mairie de Paris, la mairie du 14e, la mairie du 11e où on est basé, à travers aussi Herman Sanch, le Cap Magellan, enfin... Je peux pas tout citer, mais c'est vraiment des personnes qui nous ont toujours suivis et soutenus. Et la Radio Alpha aussi, toi-même Arthur. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de remercier toutes ces personnes. Et là, je cite comme ça parce que c'est vrai que ce lien, on parle d'un lien d'amitié entre la France et le Cap-Vert, mais dans la lusophonie aussi. On a nos amis, nos soutiens de longue date et qu'on souhaite garder auprès de nous encore de nombreuses années. Et c'est aussi un temps pour se projeter sur le devenir de l'association. Et une association, oui, il y a une équipe dirigeante, mais c'est l'association appartient à personne et à tout le monde. C'est parce que sans les adhérents, sans les partenaires, sans le soutien, l'association n'irait pas loin malgré une équipe qui travaille. On est là, on coordonne, mais l'idée c'est le faire ensemble.
Tout à fait.
Voilà, c'est pour ça qu'on demande aux gens de continuer de tenir le Cap-Vert.
Alors, donc samedi 28 octobre à partir de 14h jusqu'à 22h, entrée libre, j'insiste, salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11e, il y a deux métros, Père Lachaise ou encore Voltaire. Alors, musique envoûtante, animation mémorable, exposant, espace enfant, bar et restauration, est-ce que j'aurai le droit au Macachoupa?
Bien sûr, il y aura la cachoupe. Il y aura la cachoupe et normalement, on devrait même avoir de la cachoupe pour les personnes qui ne mangent plus de viande ou qui n'en mangent pas du tout. Il y aura d'autres mets, d'autres plats à déguster. On aura l'espace enfant avec tout plein d'animations. C'est vraiment un événement familial qu'on se veut intergénérationnel. Donc venez entre amis, en famille, découvrir, redécouvrir nos actions, nos projets, les nouveaux visages de l'association. Reprendre contact avec les anciens visages qui sont toujours présents. Mais c'est vraiment un moment pour se retrouver et surtout après cette période chaotique que le monde a vécue. Voilà, depuis nos 30 ans, on n'a pas fait de grands événements. On a eu le Noël des enfants, mais c'est vraiment... on vous attend tous nombreux de 14h à 22h, comme tu l'as dit, Arthur, à la salle Olympe de Gouges.
Karine, je m'excuse parce que... Bon, j'ai annoncé Marianne Ramsch, mais il y a plein d'artistes qui vont... Et d'ailleurs, en se disant au revoir, on va écouter une chanson de Carlos Lopes. Alors, Marianne Ramsch, Carlos Lopes, et qui d'autre?
Eh ben, on aura Mena Ramsch qui est connue et qui est un des membres fondateurs de l'association, qui était donc aussi la sœur d'Elisio Lopez. Elle sera là en tant que membre et artiste sur scène. On aura Carlos Lopez qui est un jeune artiste capverdien qui a un style musical entre les rythmes du Cap-Vert et d'autres rythmes africains. C'est une musique vraiment, je pense que vous allez tous aimer à venir découvrir d'ailleurs. Bon, je vous le dis en avant-première, normalement, il devrait partager un duo avec Mariana. On aura aussi un artiste capverdien. Tu sais, au Cap-Vert, t'as plein d'artistes, mais ils sont pas tous malheureusement connus. Et en France, pareil, on a Sonny Boy qui va venir avec trois musiciens qui va nous interpréter des classiques du répertoire capverdien. C'est vraiment, il a une voix de ténor, mais tu sais, chacun sa chance dans la musique, mais en tout cas, il nous ambiance dans les moments comme ça de musique capverdienne. On aura des artistes aussi de la scène moderne, et un peu plus jeunes qu'on est en train de confirmer, mais cette semaine, on va annoncer de plus en plus d'événements, donc je vous invite à suivre, et j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses avec vos enfants, petits-enfants. Donc, des amis, enfin. Et ce n'est pas ouvert qu'aux Cap-Verdiens.
Voilà, Ubuntu, c'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, pour les Africains, ils vont fêter aussi un anniversaire bientôt.
Exactement, les Africains, l'association, 35 ans aussi, se sont lancés un peu en même temps. C'est une histoire commune. Hein.
José da Silva, je vais passer les meilleurs.
Exactement.
Bon, il y a Popo qui dit José da Silva, dit Sarajevo. Et moi, j'ai encore saudade.
De souvenirs.
Saudade d'elle. d'elle, parce que la première fois que je l'ai vue, c'était dans un petit bar, le Bijou, Mindel, justement. Je l'ai vue, elle, sa fille aussi, on était là. Bon, on était assez bien branchés tous, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et ça, cette ambiance, la musique, je parle à Mindel, mais à Praille aussi, et pas seulement. C'est là où il y a 3-4, il y a toujours un son, il y a toujours un instrument, il y a toujours quelque chose. Ça, c'est heureusement que vous... Si vous avez toujours le sourire, malgré les problèmes, malgré les difficultés, parce qu'au Cap-Vert, on dirait pas, mais 2/3 de la population, ils ont immigré. Pour le Portugal, c'est la moitié. Bon, donc, peut-être qu'on va vous rattraper. Karine de Vriet, merci. Donc, rendez-vous samedi prochain. Merci.
Oui, samedi. Merci beaucoup, Arthur. Merci à tous les auditeurs et à toutes les personnes présentes. Et au plaisir de vous retrouver samedi prochain dans le 11e.
Et voilà. Et pour,
bon dimanche.
Et alors, un petit avant-goût, Karl Schlops. Bye bye.
Ah, oh, super. Merci.
La 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 la
na casa buta trabalha ou na lugar buta trabalha sempre falta alguém. Ele busca ninguém. Na mesa bota fume ou na cozinha tá polenha lume. Sempre falta alguém. Sem ele busca ninguém. Ninguém, cá ninguém. Sem alguém. Então não conforta o que ele não tem. Ninguém, cá ninguém. Sem alguém. Ona San Brasco que el que resta sempre falta un alguien sin él busca ninguém. Negre pai nos onda un mundo sem voz sempre falta un alguien sin él busca ninguém.
Ninguém, cá ninguém sem un alguien
então não comporta o que el que não tem.
Ninguém, cá ninguém sem un alguien.
Podre, dar com sede o cataobi, sempre falta alguém, sem ele busca ninguém. O manche toma tchar a ponta, onde busca a boca tem conta, sempre falta alguém, sem ele busca ninguém.
Ninguém, cá ninguém, sem alguém,
então não conforta com aquele que não tem.
Ninguém, cá ninguém.
Não conforta com que ele não tem.
Ninguém, cá ninguém, sem alguém.
Então não conforta com que ele não tem.
direct Passage à Niveau. On va t'accompagner jusqu'à 14h, émission en rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir des 0h, sans oublier le podcast. On part au bord de la Seine, plus exactement, avec Monsieur Jérôme Calais. Monsieur Calais, bonjour et merci
bonjour, d'être monsieur.
En direct sur Radio Alpha. Alors, comment ça se passe au Quai de Conti?
Sans que tu te comptes, aujourd'hui, il y a du ciel bleu, des nuages, les bâtiments, le cadre, le bureau est toujours aussi beau. On a toujours autant d'insomnie, toute la communauté des bouquinistes avec ce qu'on essaye de nous faire subir aux Jeux Olympiques.
Voilà, bon, on va y revenir. Justement, les mythiques boîtes vertes, vertes wagons, parce qu'à l'origine, c'était la même couleur que le premier métro parisien.
Alors, c'était la couleur du mobilier urbain, mais il faut bien savoir que jusque dans les années 40, il y avait deux couleurs qui étaient possibles, le vert wagon et le gris sombre.
Ah, d'accord.
Gris foncé.
Alors, si on revient un petit peu en arrière, bon, on va pas revenir jusqu'à 1577, mais plutôt 23 mars 1891, justement, alors les vendeurs de vieux livres... Et ils ont eu officiellement autorisation d'installer leurs échoppes autour du Pont Neuf. Je dis échoppes, mais effectivement, voilà, quand on parle des boîtes vertes,
voilà.
Moi, c'est arrivé quand je suis arrivé à Paris, ça fait longtemps, ça fait 50 ans. Pour moi, c'était une découverte, c'était une merveille. C'est que finalement, il y avait une balade. J'ai acheté plein de livres. Et pour moi, les bouquinistes font partie de ma vie, et pas seulement des Parisiens, des provinciaux, maintenant on dit plus provinciaux, mais on s'en fout, et également des touristes. Alors, tout commence, il faut le dire, le 25 juillet, vous avez reçu une lettre de la préfecture de police et un seul destinataire, Jérôme Calais. Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs que vous êtes le président de l'association culturelle des bouquinistes. Donc, vous avez reçu personnellement cette lettre. Qu'est-ce qu'elle disait?
Ah bah, très simple, on avait eu une réunion au préalable d'information le 10 juillet avec la mairie, disant qu'il y aurait probablement, tout était au conditionnel le 10 juillet, il faudrait probablement enlever nos boîtes, mais il y avait quand même une première option qui était de laisser les boîtes en place avec le service de déminage qui passait et qui sécurisait et qui scellait les boîtes. Et donc le 25 juillet, suite à ma nouvelle demande de rendez-vous avec la préfecture, le 24 juillet, j'ai reçu un courrier disant que, effectivement, exprimant la nécessité d'enlever les boîtes, toutes les boîtes étaient présentes sur le parcours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et bah là, ça a eu du mal à passer, parce que d'abord ça n'avait jamais été fait. Comme vous le disiez précédemment, en 1891, nous avions obtenu le droit de laisser nos livres sur les quais. Jusque-là, depuis 1577, effectivement, les bouquinistes amenaient leurs livres avec eux, les remisaient le soir. Et depuis 1991, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, une officialisation, parce que sur des photos de 1853-57, on voit déjà des grandes boîtes, mais c'est une officialisation pour tous les bouquinistes. Nous avons pu créer le paysage actuellement que tout le monde connaît et que tout le monde pense existe depuis toujours, de ces grandes boîtes, de ces jeux de boîtes. En général, il y en a quatre qui font environ 8 mètres de long. Une boîte ne peut pas dépasser 2 mètres de longueur. Et voilà. Et donc, personne n'y avait touché jusqu'ici. Le baron Haussmann avait tenté l'aventure en 1866 pour soi-disant retrouver la pureté originelle des perspectives anciennes du fleuve, et il s'était fait rembarrer par Napoléon III, qui avait été, après la visite à Napoléon III, Diophile Jacob, qui était avocat et ami des bouquinistes, et un grand bibliophile, un écrivain aussi, et qui avait pris la défense des bouquinistes en disant, non, c'est pas possible, vous pouvez pas les mettre pour marcher à la volaille à l'intérieur des terres, vous les laissez en place, et Napoléon III avait intimé l'ordre à Haussmann de ne pas toucher aux bouquinistes. Et là, on retrouve toujours la même rengaine, c'est pas pour les perspectives, c'est pour la cérémonie d'ouverture, c'est a priori temporaire, certes, mais c'est pas le principe du temporaire qui nous gêne, c'est la disproportion entre la nécessité, parce que la sécurité, on l'admet, on la reconnaît absolument, c'est absolument nécessaire qu'une cérémonie pareille se passe en toute sécurité, mais nous pensons qu'il y a une disproportion entre la mesure proposée et ce que l'on peut faire. Il y a d'autres solutions qui existent, moins coûteuses, beaucoup plus écologiques, plus pragmatiques et beaucoup moins dommageables, parce qu'en fait, le combat qu'on mène, on le mène plus on le mène pour l'élément patrimonial collectif que sont les boîtes, qui sont l'âme de Paris, qui sont effectivement, comme vous l'avez très bien dit, dans le cœur de toute la planète, en fait, dans l'âme de toute la planète, de tous les gens qui viennent à Paris. On est dans le top 3 avec Notre-Dame et la Tour Eiffel. C'est comme si on démontait la Tour Eiffel, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de... On se bat pour que nos boîtes soient touchées, parce que nos boîtes, il y en a qui ont 10 ans d'âge, mais il y en a qui ont 120 ans, 130 ans d'âge. Et elles sont fragiles, elles sont très fragiles, et on a très peur que la mairie, des services de la mairie, qui seuls sont restés en lice pour relever le gant, puisque personne d'autre ne l'a relevé, les services de la mairie ne fassent un massacre, puisqu'ils ont prévu d'enlever des boîtes en 5 jours, et puis de les... comment dire, de les remettre en 3 jours. Déjà là, il y a un problème.
Oui, on avançait le quai de l'Arsenal, un truc comme ça. Mais alors, revenons justement à ces boîtes vertes, pas seulement, parce que oui. Vous avez réalisé une réunion, sauf erreur, au mois d'octobre, ce mois-ci encore, oui. Mais dans un endroit très, très, très spécial. Ça vaut peut-être la peine que nous expliquiez justement, parce que ça s'est passé en deuxième étage d'un institut, lequel?
Ah oui, nous avons eu une réunion formidable. D'abord, une pré-réunion parce que l'Académie des Beaux-Arts voulait comprendre ce qui se passait. Donc, ils ont demandé au bureau de l'association de leur expliquer, de refaire une petite explication de ce que nous étions. Et bien évidemment, même s'ils le savaient déjà, mais ils voulaient en avoir confirmation et ils voulaient comprendre qu'est-ce qui se passait. Et avant de nous donner leur soutien, et effectivement, suite à cette réunion, une deuxième réunion a eu lieu, toujours dans la salle des grands débats de l'Institut de France, où siègent les 5 académies, elles ont chacune leur jour de siège. Et le mercredi, c'est celle des Beaux-Arts. Et on a fait une réunion le mercredi suivant, toujours à l'invitation de l'Académie des Beaux-Arts, avec les délégués des quais, donc on était au total une petite cinquantaine de bouquinistes présents, et un certain nombre d'académiciens de l'Académie des Beaux-Arts, des sciences morales et politiques, des belles-lettres, et des sciences. Et donc ça a été un moment très 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 émouvant, très fort, avec des échanges extrêmement pertinents, beaucoup d'enseignements, c'était très fort, et nous avons le soutien donc des 4 académies, Beaux-Arts, sciences morales et politiques, belles lettres. L'Académie française, c'est un peu différent, en fait. Ils sont pas rapprochés de nous, ils ont pris une position dans leur coin, qui demande des dédommagements. C'est un peu trivial, parce qu'en fait...
ça veut dire que c'est votre mort, en quelque sorte.
Pardon?
C'est votre mort. C'est un genre de mort annoncée.
Ils veulent qu'on nous donne des sous, mais ils s'opposent pas formellement. Ils ne rejoignent pas notre position qui est qu'on ne touche pas à nos boîtes. Parce que toucher à nos boîtes, c'est nous fragiliser après le Covid, après les gilets jaunes. Si on touche aux boîtes, on s'attend au pire. Puis bon, enlever les boîtes, elles vont partir, elles vont venir quand? La mairie est extrêmement floue. C'est ça qui nous, on n'a pas le sentiment d'une grande clarté, d'une grande, je veux dire, sincérité de la part de la mairie. Donc, on nous promet moult choses, mais les promesses n'engageant que ceux qui y croient. On est un peu dubitatif, on a passé l'âge de croire au Père Noël, voyez.
Ouais, tout à fait. Bon, alors, faut rappeler qu'il y a 240 librairies à ciel ouvert. Bon, oui. Les choses soient dites. Alors, monsieur Calais, comment on passe de la musicien classique à bouquiniste?
Un peu par hasard, mais aussi parce que c'était une passion depuis toujours, les livres. Ouais. Et puis j'avais plein de copains sur les quais quand j'avais fait l'école du Louvre. J'avais fait connaissance avec pas mal de gens sur le quai de Conti, où je suis d'ailleurs. Et ça, c'est comme ça qu'un jour j'ai posé mon dossier, parce que la musique, c'est magnifique. Mais quand vous êtes musicien d'orchestre, vous n'êtes qu'une touche du clavier. Et le vrai musicien, c'est le chef d'orchestre ou le soliste, si soliste il y a.
Voilà, et d'ailleurs, bon, vous avez un certain nombre d'écriteaux. « Lire nuit gravement à la bêtise », entre autres, moi, j'ai choisi celui-là. Monsieur Calais, donc, il y a une pétition qui circule.
Sur change.org.
Oui, voilà.
Sauvegarde des bouquinistes des quais de la Seine, c'est... Voilà, il ne faut pas donner des sous, il faut la partager, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup mieux. Voilà, sauvegarde des bouquinistes.
Voilà, sur le net. Bien que c'est c'est une profession assez difficile, bon, il suffit de voir l'hiver.
Ah, c'est un métier précaire, vous savez, j'ai pas encore si longtemps, j'ai encore accompagné un de mes collègues au quartier des indigents, et franchement, s'attaquer à nous, c'est quand même pas très sympa. S'attaquer comme ça au dernier petit métier parisien, c'est vraiment, avec où il y a une précarité quand même forte. C'est pas très net. Je pense que la décision a été prise et qu'ils pensaient que ça allait passer sous le paillasson tout seul. Bah non, en fait, on est tellement dans le cœur de toutes et de tous que ça a été un tollé général, planétaire, d'autant sur les médias que les individuels. On reçoit tous les jours des messages par la poste, par mail, par c'est incroyable. Et tout le monde, et puis tous les gens qui passent sur les quais, là, j'ai encore eu des Américaines tout à l'heure qui m'ont dit, et des Allemandes aussi, donc, qui m'ont dit, mais faut pas toucher à vos boîtes. Non, on a tous les pays, on a des témoignages de Singapour, de Buenos Aires, de Vancouver. C'est extraordinaire. C'est vraiment l'opinion publique entière qui se met avec tout. Il y a pas de problème politique d'ailleurs. C'est complètement, de toute façon, le dossier, il est culturel et apolitique. C'est pas un dossier politique, c'est un dossier qui devrait faire d'ailleurs consensus. Tous nos politiques qui veulent nous aider devraient s'unir en oubliant leur
appartenance politique, ouais.
Leurs appartenances et leurs idées politiques pour nous soutenir face à cette décision.
Mais Monsieur Calais, pour terminer, peut-être un petit coup de pouce de la part de l'UNESCO, ce serait bienvenu.
L'UNESCO, on n'y est pas encore, en fait. On y est implicitement à travers le classement de Paris de 1972 et le classement des berges de la Seine de 1991. Mais on n'est pas nommé ni dans l'un ni dans l'autre des décrets. Cela dit, on est sur le périmètre, donc on y est implicitement. Le coup de pouce de l'UNESCO, c'est compliqué parce que, là encore, c'est politique quelque part. Et puis, il y a la sécurité entre deux. Avec les événements qui ont eu lieu, là, la sécurité reprend un peu du poil de la bête comme argument. Mais comme je vous dis, on est vraiment convaincus qu'il y a d'autres solutions. Et on est prêt. C'est ce qu'on a fait comme proposition, d'ailleurs. On est prêt à rester fermé 10, voire 15 jours, mais à condition qu'on touche pas nos boîtes et à être présent pendant 5, 6, 7, 8 jours pour organiser le déminage, scellement, voire emballage des boîtes jusqu'à la fin de la cérémonie. Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'on y touche parce que nos vieilles boîtes, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait d'autres générations de bouquinistes qui nous suivent. On veut que ça s'arrête avec nous parce que simplement un bureaucrate aura décidé que, ou une bureaucrate d'ailleurs, s'il y a pas de, aura décidé que, bah, il faut déménager les boîtes et puis, y a un acharnement, je trouve, de la mairie. Voilà.
Bon, mais, monsieur Calais, bon, je fais l'avocat du diable. Oui. C'est pour débarrasser, pour nettoyer Paris, parce que bon, à Paris, il y a plus de bancs pour s'asseoir. Donc, on nettoie, on s'écline, comme on dit en bon français.
La guerre des chantiers, la guerre des tranchées ici, hein. il y a beaucoup de barres. C'est peut-être pour la préparation des Jeux Olympiques. Enfin, quand vous êtes piéton à Paris, c'est pas toujours le bonheur, hein.
Mais non, on s'en fout. Bon, mais enfin, et surtout la pollution et ça. Bon, vos poumons, j'ai l'impression qu'ils ont souffert un petit peu parce que oui. ça fait au moins 3 décennies que vous êtes bouquiniste.
Monsieur Jérôme. L'empreinte carbone. Si on ne touche pas à nos boîtes, ça sera un plus pour l'empreinte carbone considérable là aussi.
Monsieur Jérôme Calais, je vous remercie. Donc, vous êtes président de l'Association culturelle des bouquinistes. Et rappelez justement le lien pour pouvoir signer la pétition.
Oui, sauvegarde des bouquinistes des quais de la Seine, c'est sur change.org. Et puis, il faut dérouler pour partager après le lien avec d'autres personnes pour que votre voix soit prise en compte. Voilà,
merci Monsieur Calais.
Merci
pour nos auditeurs qui veulent parler avec vous. Bon, vous allez, Conti, et vous allez voir. Monsieur Calais, merci et bon vent alors, et on va continuer à suivre votre combat.
Merci infiniment.
Merci. Au revoir. Et nós estamos, a terminar a emissão. Já agora, algumas referências, um coloque internacional, Natália Correia, a voz rebelde que vai decorrer na sala de seminários da Universidade de Paris-Nanterre. Isto será no dia 26 de outubro, de manhã e depois à tarde, vai ser na Casa de Portugal, na Residência André de Gouveia, onde, aliás, está patente uma exposição com obras de 30 artistas plásticos que homenageiam Natália Correia. E na próxima quinta-feira vai ser a última apresentação da peça Jardin Nocturne, uma peça de Odete Branca que é extraída de não digo de obras, pelo menos inspirada nas obras de quem? De uma senhora, grande, grande senhora, que é Flor Bela Espanca, era Flor Bela Espanca. A última representação será na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro, às 19h30, no Teatro Clavel, 3 Rue Clavel, em Paris, 19. Obrigado a Manuel Xandra, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, bem-ajam, e espero regressar aqui no próximo domingo.